Aleluya. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons voir un élément important, c'est la Sainte Cène. Parce que la Sainte Cène fait partie des quatre piliers de la croissance dans l'Église. Si on n'a pas la révélation sur la Sainte Cène, on ne peut pas prendre la Sainte Cène de façon digne. Et si on ne la prend pas de façon digne, on ne bénéficie pas des bienfaits de la Sainte Cène. La Sainte Cène, ce n'est pas seulement un symbole. Ce n'est pas seulement un emblème. La Sainte Cène, c'est bien plus que cela. La Sainte Cène, c'est la vie. Je dis bien que la Sainte Cène, c'est la vie. Seigneur, tu parles et tu instruis ton peuple pour nous amener, Seigneur, à mettre ta parole en pratique de façon digne par la compréhension de la révélation qui se cache derrière chaque mot et par l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Gloire, honneur et louange à toi, mon Dieu. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Nous allons d'abord lire Actes au chapitre 2, verset 41 et 42. Continue.
La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.
Continue.
Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun.
Amen. Bien. Voilà par exemple le résumé de toute la vie chrétienne. Toute la vie en Christ se résume dans ces quatre versets. C'est-à-dire, si tu veux plaire à Dieu, tu dois te situer et tu dois comprendre et mettre en pratique ces quatre versets. Si tu mets en pratique ces quatre versets, alors tu es dans la volonté de Dieu, alors tu es prêt pour l'enlèvement. Toute la vie chrétienne se résume dans ces quatre versets. Je dis bien toute la vie chrétienne. Toute notre vie en Christ. Si tu peux méditer ces quatre versets, tous les jours, et si tu peux gagner la substance qu'il y a dans ces quatre versets, tu vas servir l'Éternel de façon d'une telle puissance et tu seras au rendez-vous le jour de l'enlèvement. Ça, c'est sûr et certain. Alléluia. Je te donne ça pour te situer ce que c'est que la volonté de Dieu et pour t'aider à demeurer dans cette volonté. Parce que ce serait une chose terrible que de lui appartenir et d'être absent le jour de son retour. Il dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et au départ, au verset 41, il te dit, ceux qui acceptaient la parole furent baptisés et en ce jour, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, ceux qui acceptaient la parole c'est la parole de l'évangile. Vous savez que si quelqu'un ne reçoit pas Christ, il ne peut pas être sauvé. Donc si quelqu'un arrive, il fréquente l'église, mais sans jamais recevoir Jésus, il ne sera pas sauvé. Mais il te dit que tous ceux qui acceptent Christ, l'évangile du salut, toutes ces personnes vont aux eaux du baptême. On croit à l'évangile, on va aux eaux du baptême. Parce que c'est ceux qui ont cru qui se font baptiser. C'est-à-dire croire que Dieu a fait ce monde parfait au départ. Alléluia. C'est ce qu'on lit dans Genèse 1, verset 26 à 28. Genèse 1, verset 26 à 28. Alléluia. Genèse. Allez-y, tu peux lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, que l'homme domine sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Continue au verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, c'est-à-dire aussi parfait que lui-même est. Oui? Alléluia. Alléluia. Maintenant, une fois que Dieu a fait ça, il dit maintenant, allez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez la terre, c'est-à-dire dominez sur tout ce qu'il y a sur la terre. C'est Dieu qui domine. Il a donné ce caractère à l'homme. C'est la première chose à laquelle tu dois croire. Croire que le monde a été créé par Dieu et que Dieu a fait l'homme à son image. Ce premier homme s'appelait Adam et il a fait Ève. Ève était la femme de Adam. Et que Dieu leur a donné le pouvoir, un, de se multiplier. Deux, de remplir la terre. Trois, de dominer sur toute la terre. Il faut commencer par croire à ça. Parce qu'avant qu'il y ait la chute, ça veut dire que tout était parfait. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Bien. Pourquoi Dieu a créé l'homme? On a vu qu'il a créé, il lui a donné tout ça, mais quelle était la mission de l'homme? Le premier Adam, là, quand Dieu l'a créé, c'était pourquoi? Genèse 2. Alléluia. Genèse 2. Disons le verset 15. L'Éternel prit Adam et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, il n'a pas créé l'homme pour lui donner la domination sur tout, pour que l'homme reste juste comme ça, à contempler et à manger. Non. L'homme devait aussi travailler. Tu dois être conscient de ça. Dieu appelle les gens pour travailler. Dieu appelle les gens pour travailler. Dieu t'appelle pour travailler. Travailler, cultiver. Nous cultivons quoi? Quand tu cultives, tu mets quoi en terre? La graine, ça s'appelle aussi une sémence. Voilà. Le cultivateur prépare la terre et met la sémence. La sémence, c'est quoi? La parole de Dieu. Luc 8, verset 11. Nous dit que la sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, Adam était appelé pour cultiver le jardin que Dieu avait déjà fait lui-même. Donc, ce n'est pas Adam qui a fait le jardin. Quand tu lis Genèse au chapitre 2, du verset 8 jusqu'au verset 17, il te décrit comment Dieu lui-même a fait le jardin. C'est lui qui a fait tous les arbres. Il a tout fait. Alléluia. Alléluia. Mais il a donné une recommandation précise. C'était quoi? C'était que Adam avait le droit sur tout, sauf sur une seule chose. C'était l'arbre qui était au milieu du jardin, celle de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit, démontre-moi ton amour en respectant cette consigne. Tu mangeras de tout, y compris de l'arbre de vie. Mais ne touche pas de l'arbre qui est celui de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc Dieu a créé Adam comme lui, mais Adam devait lui démontrer son amour. Et cette démonstration passait par quoi? Par le respect des prescriptions de la parole de Dieu, dont l'homme était fait pour travailler. Quand Dieu t'appelle dans son église, c'est pour travailler. Quand tu viens dans l'église, tu viens, tu t'assois, « Oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es bon, tu es grand, tu es fidèle, tu me bénis, tu me nourris, tu me donnes. Merci Seigneur, au revoir, à dimanche prochain. » Dimanche prochain, tu reviens, « Oh, merci Seigneur, tu es bon, tu es grand. » À un moment donné, il est fatigué. À un moment donné, il dit, arrête. Aujourd'hui, au lieu d'être là à me dire le même disque là, sors, on va prêcher l'évangile. Alléluia.
Amen.
Dis, je suis dans la maison de Dieu,
Dieu
pour travailler,
pour cultiver
et pour garder le jardin de Dieu.
Le jardin de Dieu,
c'est la famille de Dieu.
C'est le royaume de Dieu.
Mon travail, c'est de travailler, c'est de cultiver, c'est de garder. Et je vais le faire par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc voilà un homme heureux. Un homme heureux. Dans la Bible, c'est quoi un homme heureux? Un homme heureux dans la Bible. C'est défini dans la Bible, hein, un homme heureux. C'est celui qui craint l'Éternel. Voilà un homme heureux. Et ce bonheur-là se quantifie comment? Disons Éphésiens au chapitre 6, verset 1er. Tu vas voir comment Dieu définit un homme heureux. Alléluia. Un homme heureux. Quand tu dis « je suis heureux », les gens te regardent, on voit ta démarche, on voit la façon dont tu parles. On dit, hey, il est heureux vraiment. Alléluia. Alléluia. On va lire.
Enfant.
Obéissez à vos parents.
Selon le Seigneur.
Car cela est juste.
Honore
ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse.
Afin que tu sois heureux.
Et que tu vives longtemps sur la terre. C'est le bonheur qui fait la longue vie sur terre. Vous avez vu tout à l'heure, on a lu Luc au chapitre 13. Quand le Seigneur entre dans sa maison, il vient chercher ses figues. Il trouve que le figuier n'a pas produit. L'année suivante, il vient chercher sa figue. Ça n'a pas produit. Il vient une troisième fois chercher sa figue. Ça n'a toujours pas produit. Il demande au vigneron, « Hey, toi aussi. » Tu ne sais pas que dans un champ, il faut remplacer les plantes qui ne produisent pas. Le vigneron dit, « S'il te plaît, papa, laisse que je fasse encore un peu le travail. » Et puis après, tu vas venir chercher tes figues. Et si en ce temps-là, tu ne trouves pas de figues, toi-même tu pourras, si c'est le maître lui-même qui coupe, est-ce que quelqu'un peut contester? Le bonheur, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Es-tu heureux? C'est servir l'Éternel, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Être heureux, c'est d'être fier dans la présence de mon Dieu pour faire sa mission qu'il m'a confiée. Alléluia. 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 Bien. Lisons Jérémie au chapitre 1er. Nous allons voir que le Seigneur, il ne parle pas souvent, entre parenthèses, le Seigneur, il donne les détails. Et c'est ça qui est bien. Alléluia. Parce que s'il ne donne pas le détail, tu vas dire, Seigneur, je n'avais pas bien compris. Tu ne m'avais pas bien expliqué. Alors, il te donne le détail. Jérémie, c'est Jérémie, premier, lis à partir du verset premier. Continue au verset 4. Voilà, avant que tu n'eusses été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Continue. Jérémie répondit. Ah Seigneur, éternel, voici. Je ne sais pas parler car je ne suis qu'un enfant. Je suis arrivé à l'église seulement hier. Comment le pasteur peut me dire qu'il faut que je prêche l'évangile? Je vais dire quoi? Je suis encore un enfant. Ça ne fait même pas encore 6 mois que je suis dans l'église. Comment je vais commencer déjà à aller maintenant prêcher? Est-ce que je les connais déjà? Je ne suis qu'un enfant. Il dit non. Ne dis pas que tu es un enfant. Parce que le Seigneur lui-même parle par la bouche de ses enfants. Alléluia. Continue. Ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Parce que quand tu tardes, le Seigneur passe à la vitesse supérieure. Il te dit, ne dis pas, 2 points, je suis un enfant. Le Seigneur, il ne reprend pas les paroles insensées. C'est pour ça qu'il a mis 2 points. C'est-à-dire, il cite la parole que toi-même tu as dit. Alléluia. Et ensuite, il explique. Maintenant, tu iras vers tous ceux vers qui je t'envoie. 1, 2, tu leur diras toutes les paroles que je t'ordonnerai. Donc, c'est un ordre. C'est un ordre impératif. Ce n'est pas optionnel. Quand les gens disent, oh, si j'ai un peu de temps, je vais aller évangéliser. Même Dieu est amour. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas évangélisé qu'on ne sera pas sauvé. Tu n'évangélises pas, tu ne seras pas sauvé. Je le dis. Dieu est tellement jaloux de son œuvre. Il aime tellement son œuvre et sa créature que personne ne doit entraver. Et quand Dieu te sauve par la grâce, tu dois être à son service. Alléluia. Et c'est le prix de la sécurité. Hein. Pourquoi tu te couches et tu te lèves le matin? Pourquoi la maladie arrive et il te guérit? Pourquoi tu as faim et il te donne à manger? Pourquoi tu as soif et il te donne à boire? C'est parce que tu dois lui appartenir et le servir. Vous croyez que le monde c'est quoi? Comme dans la maison, maintenant on voit des enfants, ils se couchent, ils dorment, ils se lèvent à 11h. Maman, tu n'as pas encore préparé? Si tu fais comme ça, répands-toi vite. La Bible dit que si tu n'honores pas tes parents, Ta vie sera courte. Les gens croient que Dieu ne blague pas. Dieu peut te laisser. Il peut laisser ton corps être emporté pour sauver ton âme. Je suis un esclave de Jésus. Est-ce que tu as compris ça? Esclave! Quand tu dis le mot là, certains disent non, on ne parle plus de ça. Je suis l'esclave de Jésus. Et je le revendique. Esclave de Jésus et fier de l'être. L'esclave fait la volonté de son maître.
Amen.
Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Vas-y, continue. Continue. Oui, il envoie la main et il touche la bouche de Jérémie. Il dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Vous voyez que c'est pour rien que quand tu vas avec quelqu'un, tu dis, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'accorder votre attention? Je suis venu vous apporter une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est la parole du Seigneur qui sort de ta bouche. Et la parole de Dieu construit, ça donne la vie. Tu es un instrument pour la gloire de Dieu qui sert à donner la vie. C'est pour ça qu'il dit que des sauveurs viendront de Sion. Les sauveurs là, c'est qui? C'est toi. Parce que Jésus va agir en toi et il va parler par ta bouche. Alléluia. Continue. Bon, on va commencer. Voilà le boulot. Il te dit ce que tu dois faire. Tu dois aller dans les nations, c'est-à-dire dans le monde. Arracher. Il faut oser, n'est-ce pas? Tu arrives dans le territoire de quelqu'un, il a déjà planté son champ. Toi, tu arrives, tu dis, le terrain-ci appartient à mon père. Même si tu as planté n'importe quoi là-dessus, moi je vais arracher.
Amen.
Alléluia.
Amen.
La volonté de Dieu, c'est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité et soit sauvé. On a vu Genèse, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Hein. Ce n'est pas Satan. Hein. Et il dit à Jérémie, ta mission, c'est d'aller arracher. Il avait dit ça aussi à Gédéon. Quand vous lisez dans Juges au chapitre 6, il avait dit, Gédéon a dit, moi aussi je ne suis qu'un enfant. Je suis de la tribu de Benjamin, qui est la plus petite tribu d'Israël. Et ma famille, c'est la plus petite famille de la tribu de Benjamin. Et je suis le plus petit de ma famille. Et tu me dis d'aller faire quoi? Il dit, je te dis d'aller arracher. Ce n'est pas optionnel, hein. C'est obligatoire. Oui? Quand tu abattes, tu dois détruire ce qui est mauvais dans le monde. Attends, la ruine. Ça veut dire que tu vas anéantir, ruiner. Tu ruines le camp de Satan. Satan doit devenir pauvre. Oui? Que tu détruises le camp de Satan. Je vous assure que c'est un combat. Hein. Tu as vu ta mission? Et tu as détruit, tu as ruiné pour faire quoi? Pour que tu bâtisses le camp de Jésus, le royaume des cieux, et que tu plantes les âmes dans le royaume des cieux. Oui? C'est fini. Est-ce que c'est clair? Est-ce que la mission que le Seigneur t'a donnée est claire?
Amen.
Oh non, je ne veux pas aller parce que les gens là, ils ne sont pas gentils avec moi. Je ne veux pas que les gens me... Je ne veux pas finir à l'hôpital. Comment tu vas finir à l'hôpital? Rappelle-toi cette parole. Il dit, tu iras vers ceux vers qui je t'envoie et tu diras les paroles que je t'ordonnerai. Et il leur dit, nul ne mettra la main sur toi. Alléluia. Donc, première chose, avant de devenir un enfant de Dieu, c'est de croire qu'effectivement Dieu a créé le premier Adam parfait, Ève parfaite, parce qu'elle est tirée de la côte de Adam, que Dieu leur a donné le jardin pour le garder et pour le cultiver. Voilà ce que ça veut dire, garder et cultiver. Garder et cultiver, c'est quoi? Les bornes doivent être préservées. Le camp de Satan doit être ruiné et le camp de Dieu doit être garni. Et c'est toi qui es établi comme sentinelle sur ta maison, sur ta famille, sur ta contrée, sur ta cité, dans ton pays, dans ta ville. C'est toi qui dois aller ruiner le camp de Satan pour bâtir celui de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que l'église, c'est un camp d'entraînement. Si tu ne viens pas faire... Bon, tu ne viens pas ici gonfler le torse, prendre des muscles. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas t'envoler. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Bien. Malheureusement, la parole de Dieu nous dit qui a eu la désobéissance. Ève a désobéi. Elle a accepté de prendre de l'arbre qui était au milieu du jardin et qui était défendu, et ainsi la mort est entrée dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a chassés du jardin. Vous saviez ça? Vous savez que Adam et Ève ont été chassés? Dieu les a chassés. Dieu les a chassés du jardin. Genèse au chapitre 3. Il les a chassés du jardin. Et il a donné les clés du jardin à qui? Il a donné la garde du jardin à qui? Aux chérubins, aux anges. Alléluia. Alors, qui va restaurer les hommes dans le jardin finalement? Qui a redonné la clé à chacun d'entre nous? C'est Jésus. Dans le jardin d'où nous étions chassés, Jésus, par sa mort et son sang précieux, a expié la malédiction qui nous condamnait pour nous empêcher de revenir dans le jardin. Et il a pris la clé. Il dit, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudra point sur toi. Il dit, je te donne la clé du royaume. Et nous sommes tous des pierres. Alléluia. Et Jésus, c'est la pierre angulaire, la principale de l'angle. Et nous aussi, nous sommes tous là pour bâtir le royaume, chacun étant posé les uns sur les autres. Est-ce que tu es toujours là? Donc tu es revenu dans le jardin par la clé que Jésus t'a donnée. C'est pour ça, Hébreux au chapitre 2, on a lu encore tout à l'heure, nous dit que Jésus a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Et il t'a donné les clés. J'ai les clés. J'ai les clés du royaume. Et personne ne peut les prendre de ma main. Je l'ai. Parce que je suis légitime. Enfant de la maison. Né de Dieu. Et je vis pour mon maître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Après ça, quand Jésus a accompli cet acte, il a dit, maintenant, moi, je vais partir. On a vu ça dans Actes au chapitre 1er. Il dit, maintenant, je vous laisse. Je vais partir vers mon Père qui est dans les cieux. Et je vais revenir. Mais en attendant, ce que vous allez faire, vous allez vous souvenir de ma mort
et de ma résurrection.
Pour vous,
toutes les fois que vous vous réunissez, vous prendrez la Sainte Cène en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Mais pourquoi il dit en mémoire? Parce que nous devons nous rappeler ce qu'il a fait. Lisons Hébreux au chapitre 2, lisons à partir du verset 10. Prête bien l'oreille pour voir ce que Jésus-Christ a fait pour toi. C'est ça qu'il a fait pour te redonner la clé. Continuons.
Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères.
Jésus n'a pas honte de t'appeler frère parce qu'il est le Fils de Dieu et il t'a fait aussi Fils de Dieu. Donc tu es devenu frère avec Jésus qui est devenu le grand frère d'entre tous. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de toi. Comment tu peux avoir honte de toi-même? Le maître n'a pas honte de toi. Comment tu peux avoir honte de toi? Il n'y a que des choses qui peuvent t'amener à avoir honte de toi. Tant que tu es en adéquation avec lui, tu vas être fier de toi. Alléluia. Continue. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous faisons quoi? Nous célébrons le Seigneur. Nous avons dansé, nous avons rendu des témoignages d'action de grâce, nous avons adoré. Et le Seigneur habite là par le Saint-Esprit et il célèbre avec nous, son Père. Donc nous sommes en pleine célébration. Alléluia. Et Jésus n'a pas honte parce que nous sommes ses frères. Nous sommes les enfants de Dieu. Rappelez-vous qu'un enfant doit être heureux parce qu'il honore son père. Continue. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes les enfants que Dieu a donnés à Jésus. Nous sommes les enfants que Dieu a donnés à Jésus. Alléluia. Continuons. Les enfants participent à la Sainte Cène. Le sang et la chair, c'est la Sainte Cène. Alléluia. Jésus, lui aussi, c'est notre frère. Et comme nous, les enfants, nous participons, lui aussi, Jésus l'a participé lui-même. Pourquoi lui a participé? Il nous explique pourquoi. Continuons.
Afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable.
Alléluia. Vous voyez? Vous voyez ce que Jésus a fait? Par la Sainte Cène, il nous montre comment, par sa mort, il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, celui qui avait pris les clés à Adam. C'est même pas lui qui avait pris, c'est Adam qui lui avait donné. Adam lui-même a pris. Oui, c'est Adam, puisqu'il a écouté sa chère tante. Il aurait dû ne pas écouter Ève. Il aurait dû se fâcher pour la première fois devant Ève. Quand Ève a dit, mon chéri, mais je ne te connaissais pas comme ça. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est grave! Tu n'aurais pas dû. Je ne mange pas. Est-ce que tu sais que le monde n'aurait pas été perdu si Adam n'avait pas mangé? Même Ève ayant mangé, si Adam n'avait pas mangé, le monde n'aurait pas été. C'est Adam qui a mangé pour perdre le monde. Pourquoi? Parce que le jour où Dieu donnait la consigne, c'est à Adam qu'il a donné la consigne. C'est pas à Ève. L'homme est le chef de la famille. L'homme est le chef de la femme. vous avez bien acclamé. Mais seulement, attention, c'est vous qui rendrez compte à Dieu. Hein? Si tu fais comme Adam, tu es foutu. Alléluia. C'est Adam qui a remis les clés du royaume à Satan, lui-même. Mais Jésus a fait quelque chose de grand. Jésus a anéanti Satan. Par sa mort à la croix, il a anéanti Satan. Nous venons de voir. Et ainsi, il délivra qui? Le verset 15. Ainsi, il a délivré tous ceux qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie dans la servitude, c'est-à-dire dans l'esclavage. Jésus nous a délivrés de l'esclavage et il nous a remis la clé. C'est la raison pour laquelle, ayant fait ceci, il rappelle à ses disciples une chose importante. Alléluia. Que nous devons faire. C'est pour ça qu'il a institué la Sainte Cène auprès de ses disciples. Alléluia. Mais est-ce que la Sainte Cène, qui peut me dire l'origine de la Sainte Cène? Depuis quand la Sainte Cène avait été instituée? Depuis? La Pâque? Et la Pâque a commencé quand? Depuis l'Égypte. La Sainte Cène a été instituée depuis l'Égypte. Alléluia. Exode au chapitre 12. Exode au chapitre 12 te dit que quand le peuple d'Israël était en Égypte en captivité, le peuple de Pharaon voulait détruire le peuple. Alors Dieu leur a dit, vous allez célébrer la Pâque. Vous prendrez un agneau par famille. Si la famille est petite, vous prenez un agneau ou un chevreau pour deux familles. Vous allez immoler cet agneau. Vous allez prendre le sang de cet agneau que vous allez mettre sur le linteau des portes. Et ainsi, dans la maison, tous ceux qui sont dans la maison, les parents, les grands-parents, les enfants, les esclaves qui sont circoncis, tous doivent prendre, manger la viande, la Pâque. Alléluia. Alléluia. Donc, les bébés étaient sous la responsabilité de leurs parents. Parce que c'est ça qu'on appelle la couverture spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? C'est pour ça qu'il te dit, à toi, ma fille Memora, à toi. À toi. L'Éternel te dit que Brian est sous ta couverture spirituelle. Brian est pur parce que tu es pur. Donc si tu te... Si tu ne protèges pas, si tu ne te protèges pas, c'est que tu ne protèges pas, Brian. 1 Corinthiens au chapitre 7, verset 14. Alléluia. Lisons ça. 1 Corinthiens 7, 14. Il dit quoi? Tandis que maintenant, ils sont saints. Dès qu'un enfant a un parent, déjà, qui est enfant de Dieu, cet enfant-là est pur. C'est pour ça qu'il dit, femme, vous étiez deux païens. Toi, tu reçois le Seigneur. Ton mari dit, laisse ça. Je ne pars pas dans vos sectes-là. Tu dis, ah, chérie, c'est bon, hein? Il dit, ah, laisse ça, laisse-moi ça. Tu dis, bon, est-ce que moi au moins tu me laisses, comme je suis bien là-bas, tu, oui, oui, toi tu peux partir. Ce n'est pas un problème, tu peux y aller. Tu peux y aller. La Bible dit que dans ce cas-là, toi qui es sanctifié, tes enfants sont saints. Pas toi. Et toi, sais-tu femme, si tu sauveras ton mari, parce que même si lui n'écoute pas la parole, il dit, ayez un comportement tel que votre mari soit sauvé. Non par la parole, mais par votre comportement. En vivant comment? De façon chaste et réservée. Sarah appelait son mari comment? Les femmes, répétez, dites-moi. Satan appelait... Sarah appelait son mari comment? Non, elle appelait chérie. Sarah appelait Abraham chérie. Est-ce qu'on a vu ça dans la Bible? Elle appelait comment? Est-ce qu'il y a une femme ici qui appelle son mari mon Seigneur? Ah! Arrive pas à la maison, tu dis mon Seigneur. Il va te montrer qu'il est vraiment ton Seigneur. Il va dire, ah, tu as vu ça où? Montre-moi vite, montre-moi vite. Alléluia. Ah, c'est glorieux. Alléluia. Non, la parole de Dieu veut dire tout simplement que si un homme, si tu as épousé un homme, et que cet homme-là, il accepte que tu reçoives Jésus, même si lui ne l'a pas reçu, mais il te laisse tranquille adorer ton Dieu, la Bible dit ne te sépare pas. Parce que quand tu vas vivre de façon digne et le Seigneur va t'élever, cet homme-là va être gagné. Alléluia. C'est valable dans l'autre sens aussi. Alléluia. Voilà. Mais ce qui est différent, il ne faut pas être... Si tu es enfant de Dieu, tu dis, comme la parole a dit ça, je vais aller chercher une païenne pour l'épouser. Si tu vas chercher une païenne pour l'épouser, elle ne changera pas. Elle va t'amener à adorer les dieux Baal. C'est ce que la Bible dit. Hein? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. La Bible parle ainsi du cas de deux païens, dont un a cru et l'autre n'a pas cru. Alléluia. Alléluia. Maintenant, s'il dit, je ne parle pas, mais toi aussi, tu ne mets pas les pieds. Ah non, il ne faut pas accepter. Entre lui et Jésus, tu choisis qui? Entre le mari et Jésus, tu choisis qui?
Jésus.
Entre le mari et Jésus, tu choisis qui?
Jésus.
Tu dis, oh Seigneur Jésus, regarde ma peine, manifeste-toi. Et puis, l'homme est là, il voit les murs de la maison trembler. Il dit, ton Dieu, là, il est où? Allons, 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 allons. Non, si l'homme veut être une occasion de chute pour toi, tu dis non. S'il dit entre Jésus et moi, tu l'as choisi, tu dis, je choisis Jésus. Hé hey! Tu vas dire, ah, quoi? Quoi? Il dit, je choisis Jésus. Il va te bouder un jour, deux jours. Le troisième jour, quand tu es en train de dormir, tu vas sentir que quelqu'un secoue un tout petit peu la couverture. Ah, c'est qui? C'est qui? Ah, je t'ai dit habitué à dormir seul. Non, 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 non. Maintenant, ça va, tu peux aller à ton église tranquille. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est pas comme ça que ça se passe? Est-ce que j'ai dit la vérité? Alléluia. Dès que tu as cru, ton enfant est pur. C'est pour ça que depuis l'Égypte, les enfants qui étaient dans la maison, lorsque l'on avait recouvert avec le linteau des portes du sang, c'était des brebis pures, sans tache, sans défaut. Ça préfigurait Jésus-Christ qui devait se donner comme l'agneau de Dieu, pur, mâle, sans tache, sans défaut, pour ôter le péché du monde. C'est pourquoi la Sainte Seine, c'est pour toi et ta maison. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours là?
Amen.
Donc, Jésus ayant anéanti le pouvoir de la mort, et Jésus t'ayant déjà donné la clé, Jésus a été enlevé après la résurrection. Il a été enlevé, n'est-ce pas? Jésus vit où? À la droite de Dieu le Père. Il est là-bas, hein? Celui qui habite ton esprit, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te conduit chaque jour. Jésus et le Père, ils sont dans les cieux.
Alléluia. Maintenant, Jésus a donné une recommandation précise. Il a dit quoi? Il a dit, chaque fois que vous vous réunissez, vous le ferez en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Nous voyons ça dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Alléluia. 1 Corinthiens au chapitre 10 et 1 Corinthiens au chapitre 11. Amen. Lisons ça. Et je vais vous faire la relation maintenant entre la victoire sur la mort et ce qu'il a dit. Alléluia. Et vous allez voir que c'est une commémoration d'un événement qui est encore d'actualité. Ce n'est pas comme la commémoration de la mort du président de Gaulle. Et puis ce jour-là, on prend les drapeaux, on se souvient de sa mort. Ce n'est pas la même chose. Hein? La mémoire de Gaulle est oubliée. Il n'a plus d'effet sur ce qui se passe sur ce soleil. Mais Jésus est vivant. Amen. Et son sang parle encore aujourd'hui. Amen. Plus que celui de Abel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Ah, si tu suis bien tout à l'heure, parce que dès que je finis, on prend la Sainte Seine. Quand tu vas prendre la Sainte Seine, là, tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Amen. La Sainte Seine que tu prends aujourd'hui, là, tu verras ce qui va se passer. Tu verras ce que ça va produire dans ta vie. Amen. Un miracle que tu n'as jamais vu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus a donné la recommandation. Nous sommes sur 1 Corinthiens 10. Alléluia. Voilà. Descends. Commence au verset 16. Voilà. Oui.
La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-elle pas la communion au corps de Christ?
La coupe. C'est la communion au sang. La communion avec le sang de Christ. Or, le sang de Christ est encore vivant aujourd'hui. C'est le sang de Christ qui nettoie les impuretés du monde. C'est ça qui nettoie les malédictions qui condamnent le monde. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Or, quand tu prends la coupe, cette coupe-là est en communion directe avec le sang de Jésus qui agit encore maintenant. Je ne te laisse pas imaginer ce qui se passe lorsque ça se met en communion avec le sang de Jésus et que tu bois. Je ne te laisse pas imaginer l'impact que ça va avoir quand ça passe dans ton tube digestif, ça traverse les parois, ça va dans les cellules, ça nettoie, ça coupe les maladies, ça coupe les cancers, ça coupe les... Comment ? Ça nettoie ! Quand on prend ça sans connaître la valeur, ce que ça veut dire, sans avoir la révélation, on joue. Tu sors de chez une prostituée. Je suis déjà en retard. Tu entends dans ta voiture. Il y a 10 ans comme ça. Dieu est bon Seigneur. On dit cela, la Sainte Seine. Tu viens devant. Quand tu veux toucher ton coffre, le cœur fait pouf. Tu dis, mon cœur allait couper et tomber dans mon ventre. Parce que le Saint-Esprit t'a mon cœur. Répands-toi. Répands-toi. Tu dis, oh, on dirait que j'ai mal au ventre. Oh. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là?
Amen.
Continue. Nous participons tous à un même pain. Nous sommes tous les membres d'un seul corps. La Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12 que le corps, tous les membres du corps sont unis les uns les autres. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. La main ne peut pas dire au ventre, je n'ai pas besoin de toi. Donc, si tu viens prendre la Sainte Cène, tu dois être uni dans le corps de Christ. Il ne s'agit pas seulement de dire bonjour à tout le monde, de faire bisous à tout le monde. L'unité, c'est aussi dans la sanctification. Si tu as les gens dignes qui viennent, et toi aussi, tu viens, tu es voleur, tu es menteur, tu es pudique, et tu viens te mélanger à eux, hein? C'est grave, hein? Tu es venu infecter le corps. Et quand on veut prendre la Sainte Cène, tu envoies aussi ta main. Le Saint-Esprit tape ta main. Hop! On dirait qu'il y a un serpent qui m'a piqué. Ce n'est pas le serpent. Le Saint-Esprit a frappé ta main pour que tu te repentes. En ce temps-là, tu dis, Seigneur, oh, je me repens. Quand ça vient sincèrement du cœur, tu sens toi-même comment une joie commence à te remplir. Une joie te remplit. Et immédiatement, tu es en phase avec les autres. Alléluia. Je vous dis comme ça, je vous donne des réalités spirituelles. Ce que je vous donne là, c'est les réalités spirituelles. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Lis en Corinthiens chapitre 11. Lis à partir du verset 26. Remonte un tout petit peu, 23. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Attends. Jésus dit, il prend les disciples. Il prend le pain. Il rompt le pain. Et il a dit quoi? Ceci est? Est-ce qu'il a dit ceci est le symbole de mon corps? Qui parlait? Jésus. Est-ce que quand il a montré du pain là, on a vu un morceau de viande avec peut-être le sang qui coulait à côté? Et pourtant, il montrait bien le pain. Mais il dit que le pain c'est son corps. Vous voyez pas? Vous voyez, il y a quelque chose, non? Donc, le pain de Christ, il dit, ceci est mon corps. Continue. Toutes les fois que vous en boirez, il dit, toutes les fois que vous en boirez, faites ceci en mémoire de moi. Et nous avons vu que la coupe, c'est la communion avec le sang de Christ. Alléluia. Toutes les fois que vous en boirez, vous voyez qu'il y a des moments où on ne peut pas en prendre. Il y a des moments où on peut prendre. Ce n'est pas parce qu'un jour on n'a pas pris que nous allons cesser d'être dans la sanctification. Mais rappelons-nous que la Sainte Cène, c'est un moment privilégié que Dieu nous donne de rester en communion avec lui et de pouvoir expérimenter l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix est encore manifeste aujourd'hui. Alléluia. Continue. Voilà. Donc, chaque fois que vous le faites, en le faisant, vous annoncez donc que la mort de Jésus et sa résurrection. C'est-à-dire, chaque fois que vous êtes en train de le faire, vous témoignez que le sang de Jésus parle encore aujourd'hui, que le corps de Jésus meurtri donne encore la guérison aujourd'hui. Parce que ce n'est pas ces meurtrissures que nous avons été guéris. Donc, quand tu le fais, tu es dans une dimension spirituelle. Parce que tu sais que l'acte de la Sainte Cène, c'est la preuve de ce que Jésus a fait. Et tout œil verra la manifestation physique dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Continue.
Verset 17. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur et du monde sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
Alléluia. Si tu viens prendre la Sainte Seine indignement, maintenant que vous avez eu toutes les explications, on sait ce que ça veut dire indignement. D'abord, c'est quelqu'un qui n'appartient pas au corps et qui vient se mêler au corps. C'est quelqu'un qui appartient au corps, mais qui ne marche pas dans la sanctification. C'est aussi quelqu'un qui appartient au corps, mais qui ne prend pas soin de l'œuvre de Dieu. Tous ces gens, ils le font indignement. Parce que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Si quelqu'un veut voir Jésus-Christ, il vient dans cette salle, il nous voit. Il a vu Jésus. Donc, tu dois prendre soin de l'œuvre de Dieu. Tu dois prendre soin, démontrer la sainteté, l'amour de Dieu, partout où tu te trouves. Tu dois prendre soin du troupeau, prendre soin des brebis, avoir la communion fraternelle, comme nous avons vu là. Persévérer dans les enseignements, avoir la communion fraternelle, prendre soin de tes frères et de tes sœurs, apporter le financement de l'œuvre de Dieu. Bref, tu dois être un digne ambassadeur. Est-ce que vous êtes toujours là? Continue. Oui, continue.
C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de morts et de malades. Et que grand nombre sont morts.
Vous avez compris? Parce qu'on vient de voir que par le sang de Jésus à la croix, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et nous venons de voir que lorsque nous nous réunissons et nous prenons la Sainte Seine, nous apportons ainsi le témoignage de l'action du corps et du sang de Jésus dans nos vies. Nous avons vu que cette communion produit le miracle. Mais lorsque tu viens prendre de façon indigne, tu ne bénéficies pas des bienfaits comme quelqu'un qui fait de façon digne. C'est pourquoi, au lieu de guérir de ta maladie, comme tu devrais normalement l'avoir, tu demeures dans la maladie. Au lieu de vivre longtemps pour servir ton Dieu, c'est un meurtre précocement. La mort précoce n'est pas dans le plan de Dieu. On est dans une église normalement. La parole de Dieu nous dit que le nombre de nos jours doit être d'au moins 120 ans. Adam, le premier, a vécu 935 ans. Il était là. 900, à 875, il faisait encore les enfants. Oh, Adam, 930. À 930, il s'est endormi. 930. Après, Dieu a dit, non, le nombre de vos jours sera au moins de 120. Mais aujourd'hui, combien atteint 120? Quand quelqu'un meurt à 80, on dit, même lui a vécu. Dans certains pays, quelqu'un meurt même à 75, on dit, il était déjà vieux. Alléluia. Est-ce que vous êtes là?
Amen.
Vraiment, ne prenons pas à la légère l'œuvre de Dieu. C'est une puissance énorme. Alléluia. 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 Il dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur. Jérémie 48, verset 10. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas bénéficier de toutes les dispositions que l'Éternel avait déjà prévues pour ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que si on s'arrête là, c'est bon?
Amen.
Est-ce qu'on a compris?
Amen.
Est-ce qu'on a compris?
Amen.
Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous avons dit quatre choses. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. La communion fraternelle. La fraction du pain et la prière. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de la fraction du pain. Pendant des semaines, nous sommes en train de parler dans les enseignements de la prière. On est en train de voir toutes les facettes de la prière. Et ces piliers-là, de grâce, je vous demande de vous attacher à ces piliers qui porte la maison. Quand vous prenez un édifice, il y a des plots, des piliers qui portent l'édifice. Alléluia. Il faut s'attacher à ça. Si ces piliers ne sont pas là, l'édifice va s'écouler. Alléluia. 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 Amen. Amen. Voilà.